Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Whoa!
Radio.
Radio. Radio. Radio.
Pirate.
Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à la piraterie. Nous sommes sur Radio Pirate ce soir pour une émission incroyable. Je suis très très contente qu'on puisse animer cette émission entre deux fins matelots et fins émissions qui sont les gens qui bossent. On s'en bat pas la race et l'émission de ce soir s'appelle On bosse ici, on reste ici sur la question des travailleurs sans papier et les droits au papier. Pour aussi faire une petite introduction, on voulait tout de suite donner notre solidarité avec tous les camarades qui sont en ce moment même place de la République à Paris pour une action sur la question du logement. Et donc on pense fort fort à eux. On sait qu'il y a eu beaucoup de répression et on ne peut pas rester à côté de ça. Je suis accompagnée par deux personnes, deux fines pirates qui m'ont accompagnée sur ce beau trois mâts. Draylin, est-ce que tu es là?
Oui, bonsoir, bonsoir, ahoy.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et te présenter pourquoi tu considérais que cette émission était importante, qu'elle existe, etc.
Alors, tout d'abord, moi je suis Mousse, donc c'est la première émission que je fais. Et je voulais rejoindre une première émission et celle-là, elle me tenait particulièrement à cœur parce que le sujet de l'accessibilité et en fait de l'accessibilité et de la paix en fait de manière générale sur aider c'est important et voilà, je sais pas, j'ai encore un peu stressé, pardonnez-moi. Et après il y a Marwa aussi avec nous ce soir.
Ouais, tout à fait. Salut Marwa, est-ce que tu es là?
Bonsoir, oui, je suis là, je suis au poste. Comme Draylin, je suis aussi Mousse, c'est la première fois que je co-anime une émission et je suis ravie d'être là. Concernant ta question autour de l'importance de ce sujet, Pauline, c'est un sujet majeur qui est vraiment à la croisée de beaucoup de thématiques de lutte, parce qu'il s'agit d'une question de violence pluridimensionnelle. C'est à la fois de la violence au travail que subissent les travailleurs et les travailleuses sans papier. C'est une question aussi de violence raciale. Face aux violences policières, par exemple, que subissent les travailleurs et les travailleuses sans papier. Et c'est aussi une violence administrative, notamment liée à l'absence de régularisation de leur statut. C'est pour ça que c'est une question qui paraît extrêmement importante dans le cadre de ces luttes-là et qu'il ne faut pas les négliger, au contraire.
Merci beaucoup. Vous êtes sur Radio Pirate et nous sommes extrêmement heureuses de recevoir deux pirates incroyables ce soir. Donc Amel qui est en fait en téléphone, donc en fait vous entendez téléphone qui va sur le Discord, qui va sur le son. Est-ce que Amel, tu nous entends?
Oui, Pauline, je vous entends. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Oui, je m'appelle Amel, une femme sans papier. Je fais partie du collectif des immigrants en France et je fais partie aussi de la marche de solidarité.
Merci beaucoup. Et nous avons aussi Nordi qui est avec nous. Salut Nordi, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Eh bien, je suis Nordi, je suis présidente d'une association qui s'appelle Sorosa, qui est à Valence et qui aide les personnes exilées, plus particulièrement les femmes et les jeunes, mineurs ou jeunes majeurs.
Ben, merci beaucoup à toutes les deux de venir participer à cette superbe émission de la piraterie. On va commencer par lancer le jingle.
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Whoa!
Alors, ben, nous sommes de retour sur Radio Pirate. Encore merci à la technique et aux techniciennes pour ce soir. Je sais que Draylin, tu voulais faire un petit point sur des caisses de grève ou des caisses de solidarité à relayer. Est-ce que tu peux m'en parler en une seconde?
Oui, comme tu disais, en fait, on est de tout cœur avec les camarades qui sont à la place de la République en ce moment. Il y a énormément d'assos qui sont là-bas et de bénévoles. En particulier HDS Paris, Solidarité Migrants Wilson et Utopia 56. Et donc, on a quelques liens de caisse et de soutien à l'OAC, en fait, à vous passer, que les modos vous mettront dans le chat. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous voulez participer, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à interagir et nous, on y répondra et on posera les questions aux invités ce soir.
Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez sûrement, si vous êtes des aficionados de Radio Pirate, nous avons plusieurs capsules de prévention parce qu'on considère qu'en cette période de confinement, il faut faire attention à nous. Et nous avons décidé ce soir de passer la capsule sur la question des violences faites aux femmes parce que ça nous tenait particulièrement à cœur. Donc, voici la capsule.
Dans des situations de confinement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir, il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces deux numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclair met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul.
Alors, vous êtes bien sur Radio Pirate et nous sommes extrêmement heureuses de recevoir ce soir Amel et Nordi pour nous parler de cette question, de la question des sans-papiers, de travailler en France et rester en France. Je sais que Drylin, tu avais des questions pour Amel. Est-ce que tu veux commencer un peu cette discussion ?
Bien sûr, bien sûr. Alors, du coup, Amel, comme tu as dit tout à l'heure, donc tu es une femme sans papier en France aujourd'hui. C'est comment de travailler en fait quand on est sans papier en France aujourd'hui ? C'est quoi les principaux obstacles qui ont été sur ton chemin en fait dans une recherche d'emploi ?
Là, moi, ça fait presque 5 ans que je suis ici en France. Donc là, pour le travail, pour un sans-papier, c'est pas facile. Donc, pour trouver un travail, donc à ton arrivée, il y a pas d'entourage, il y a pas de connaissances et tout. Et vu que si tu as le papier, tu peux aller te poser les CV et tout, et tu auras un travail. Mais là, si t'as pas le papier, donc tu dois tourner à droite, à gauche. Et il faut d'abord avoir un entourage pour trouver des petits boulots. Moi, en tant que femme, j'ai resté presque un an. J'ai resté un an et j'ai pas pu travailler. J'ai pas trouvé quelque chose. Et après, j'ai fait quelques bénévolats dans des associations. C'est là où j'ai commencé à avoir un peu de connaissances et tout. Donc, c'est là où j'ai commencé de faire des petits boulots. Par exemple, j'ai travaillé dans une librairie où je vends les journaux et tout, mais c'était un peu compliqué vu que je suis une femme, mais une femme aussi qui porte un foulard, donc c'était un peu compliqué. Donc, et après, à cause de ça, je me suis arrêtée et après, j'ai fait des heures de ménage dans une société. Après, j'ai fait d'autres heures de ménage avec les personnes âgées et tout. Donc voilà, c'est pas facile d'avoir un travail ici en France si t'as pas le papier. Et en plus, si tu arrives à trouver le travail, donc il y aura les conditions dans le travail sans dire difficiles. Donc là, juste par exemple par rapport à le salaire, c'est quelqu'un par exemple sans papier, il travaille dans un endroit avec un autre avec des papiers, donc il peut toucher que la moitié du salaire que si quelqu'un il a des papiers. Donc voilà, concernant le travail, c'est pas facile. C'est on n'a pas des papiers, c'est pas facile de trouver le travail. Et voilà, des fois nous, moi en tant que femme, nous les femmes beaucoup plus. Par exemple là, pour les hommes, il y a des bâtiments et tout, ils ont beaucoup de chance que nous. Et pour nous, les femmes, en tant que des femmes, si on arrive à trouver le travail, des fois, surtout avec le, comment dire, la vérité, surtout de travailler avec les hommes, si le patron, c'est un homme, donc là où il peut avoir, enfin, on peut avoir, et la plupart des femmes, voilà, ils essayent de profiter de notre situation. Travailler pendant des heures, le salaire est le minimum, mais des fois même, il y a des violences tout le temps. Voilà.
Oui, du coup, il y a une violence qui s'exerce parce que du coup, tu es une femme et que tu portes le foulard, et en plus parce que tu n'as pas de papier. Est-ce que du coup, c'est quoi les emplois en particulier qui te sont ouverts en fait? Il doit y en avoir, il y en a très peu, j'imagine. C'est quels secteurs qui sont surreprésentés, font appel à des personnes qui ne sont pas en situation régulière?
Premier lieu, c'est le ménage, nettoyage, et avec les personnes âgées. C'est les deux domaines, généralement. Et aussi la restauration, mais pas beaucoup la restauration, beaucoup plus les hommes, mais voilà. C'est, on peut dire nettoyage, le ménage, garde des personnes âgées, des fois des gardes d'enfants, donc. Parce que pour les gardes d'enfants, des fois, tu peux trouver un travail, mais les parents et tout, ils veulent que ces enfants, ils soient avec des gens qui sont, voilà, qui pas, on peut dire qu'ils sont des Français et tout, donc voilà, qui sont pas étrangers. Alors, beaucoup plus de le ménage et des personnes avec les personnes âgées.
D'accord. Et du coup, tu nous as parlé des violences auxquelles tu étais confrontée et de la difficulté d'avoir de continuer à avoir un emploi, des pressions et du chantage qui s'exerçait. C'est quoi les revendications que toi tu portes vis-à-vis du travail et de la défense à travailler en France?
Concernant par exemple là, moi personnellement j'ai trouvé un travail mais je travaillais avec un membre dans une société de ménage où au début il m'a fait un contrat de travail, mais il m'a fait 6 mois de période d'essai, donc c'est long quand même, 6 mois de période d'essai. Et cette période d'essai pour lui, pour savoir si je travaille bien ou pas, mais c'était pas le cas. C'était juste pour tester et tout, et après il voulait autre chose, donc en tant que lui un homme et moi je suis une femme, mais comme je voulais pas, donc du coup avant les 6 mois qui sont finis, il m'a arrêté, donc je peux rien faire en tant qu'une femme sans papier, donc j'ai aucun droit, donc je peux rien faire, donc, et en plus il m'a arrêté pendant la période d'essai, ça veut dire avant que le contrat passe, on s'est dit, donc voilà.
Et Amel, toi qui es militante pour les droit des sans-papiers, quelles revendications tu aurais sur la question du travail et des personnes sans-papiers? J'imagine déjà avoir des papiers, mais plus globalement, quelles revendications tu aurais?
Oui, en fait, comme on savait très très bien que les sans-papiers ici en France, ils ont beaucoup de problèmes, mais la première des choses, c'est la régularisation. Parce que si on a la régularisation, après on peut avoir tout. S'il n'y a pas la régularisation, donc c'est très difficile. Deuxième point qui est aussi dur, donc c'est le logement. Et le troisième point, c'est par rapport à la liberté de circulation et tout. Donc, peut-être nous les femmes, c'est moins que les hommes, mais franchement, les hommes, là, par exemple, là, tu peux aller au travail, par exemple, et là, dans la rue, tu peux être arrêté après, voilà, il y aura un contrôle de pièces d'identité, t'as pas besoin de te dire française. Donc, après, centre de rétention et après l'expulsion. Donc, pour les revendications en tant que des sans-papiers, c'est clair, c'est la première des choses, c'est la régularisation des sans-papiers. C'est avoir des logements dignes et des logements, des logements qui sont convenable aux gens, donc le logement. Et le troisième point, c'est la fermeture de centres de rétention, parce qu'on voit très très bien que là, la plupart des, surtout les hommes, ils sont chassés avec, ils ont chassé pour les ramener au centre de rétention et après les expulser.
Merci beaucoup.
De rien.
Et du coup, Amel vient de parler de sa situation et des centres de rétention, de la difficulté en fait que c'est même d'être sans papier en France. Est-ce que toi, Nordi, ça se cristallise dans ton travail, c'est les personnes que t'accompagnes, c'est des situations similaires?
Oui, alors c'est des situations similaires. On retrouve effectivement les mêmes travaux que Kamel a cités pour les femmes au niveau du ménage et puis de l'aide à domicile, des auxiliaires de vie pour les personnes âgées ou pour les personnes en situation de handicap aussi. Et puis pour les hommes, ça va être les hommes qui sont sans papier, ça va être dans le bâtiment, énormément dans le bâtiment, auprès d'artisans. Voilà, c'est à peu près la restauration aussi, comme elle a dit, mais un peu moins quand même. C'est beaucoup le bâtiment, c'est des travaux qui sont excessivement pénibles. Ensuite, pour la traque des sans-papiers, c'est quand même un peu plus dans les grandes villes. Nous, on est en province, donc c'est quand même ils sont beaucoup plus tranquilles ici que dans les grandes villes. Donc ça, c'est quand même un peu moins dangereux ici, en province. Après, on s'adapte avec les procédures et les pratiques de nos préfectures respectives. Hein. Ce n'est pas les mêmes partout. Donc, nous, par exemple, ici, ils sont à peu près tranquilles pour circuler les sans-papiers.
Oui, je vois ce que tu veux dire. On renouvelle d'ailleurs notre soutien aux personnes qui sont en place de la République, parce que c'est très tendu en ce moment là-bas. Et du coup, toi, Nordi, tu nous as dit que tu étais présidente d'une association qui aide les jeunes et les personnes, enfin les jeunes et les femmes en particulier qui sont sans papier. Est-ce que toi, dans ton travail, il y a des difficultés liées spécifiquement en fait à ce que tu fais dans le sens où tes conditions à toi, elles sont difficiles parce que justement, vous aidez une population très, très précaire et très discriminée.
Mal à répondre à la question, parce que j'ai envie de dire qu'on s'en fout. On s'en tape. Si mes conditions à moi sont difficiles, moi, je rentre le soir dans ma maison, j'ai un lit, j'ai un frigo, il y a de la bouffe dedans. Enfin, je veux dire, enfin, voilà quoi, il y a de l'électricité.
Je pense que Nordi, la question qu'elle voulait te poser, c'était en mode de. Quelles difficultés matérielles vous avez à aider ? Est-ce que vous avez assez de moyens pour pouvoir aider ces personnes, que ce soit les personnes sans papier ou réfugiées ou exilées que vous accueillez ? Est-ce que vous avez assez de moyens pour pouvoir le faire dans votre association ou pas ? C'était un peu ça.
Pardon, j'avais pas compris la question. Non, bien sûr que non, on n'a pas du tout assez de moyens, alors ni nous ni les autres associations. Et alors sur la question des personnes qui sont sans papier, c'est excessivement intéressant d'ailleurs, parce que les associations généralement demandent des subventions. Bon, nous on n'en a aucune, mais bon, admettons. Les associations demandent des subventions, elles sont subventionnées pour qui ? Pour les demandeurs d'asile, ça d'accord. Pour les personnes réfugiées, ça d'accord. Pour les jeunes, pour les mineurs, pour les jeunes majeurs éventuellement, mais certainement pas pour les personnes sans papier puisqu'elles sont en situation irrégulière. Or donc, les personnes qui sont sans papier, à un moment, comme c'est le cas d'Amel par exemple, quand ça fait 5 ans qu'elles sont sur le territoire, enfin, au moins minimum 5 ans, elles vont pouvoir être régularisées. Commencer en tout cas à demander leur régularisation via la circulaire Valls. Notamment, selon le temps qu'elles sont là, selon si elles ont trouvé un travail ou pas, enfin bref, selon la scolarisation de leurs enfants, etc., etc. Et si elles sont régularisées, donc si elles deviennent en situation régulière, elles pourraient participer, si vous voulez, au financement des associations. C'est-à-dire, d'un seul coup, elles basculeraient dans le nombre, dans le quota des personnes qui permettraient la subvention des associations. Mais tout le boulot que se seraient tapé les associations à héberger, nourrir, aider aux démarches administratives, aider à aller porter plainte pour ci ou pour ça pendant des années, bon, bah, qui les aurait subventionnés pour ça ? Personne, si ce n'est la générosité des donatrices et des donateurs pendant des années, quoi. Donc non, on n'a pas du tout assez d'aide pour ça. Il nous manque évidemment, ce que disait Amel, le logement d'abord, le nombre de personnes qui sont papiers qui arrivent et qui disent « Est-ce que vous avez une maison ?» Non, on n'en a pas. Qui cherchent, évidemment, qui ont besoin d'aide financière, alimentaire, etc. Et puis qui cherchent aussi du travail. Mais c'est généralement ça, c'est pas nous qui les aidons là-dessus, c'est plutôt leur propre communauté.
Merci beaucoup, Nordi. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur Radio Pirate. Je crois qu'on va continuer. Tu aurais des questions à poser encore ?
Et on a une question dans le chat. Je suis pas sûre si Nordi peut-être aurait un élément de réponse.
Peut-être Amel aussi. Amel, est-ce que tu es en lien avec certains syndicats de travailleurs ou travailleuses de sans-papiers ou sans-papières?
Oui.
Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quel travail tu fais avec eux et comment quelle action ils mènent sur le terrain sur la question du travail?
Oui, en fait, moi, en tant qu'une femme, en tant qu'une personne sans papier, donc là, j'ai essayé d'avoir un intérêt et tout. Et parmi ça, il y a des syndicats, par exemple, il y a Solidaire, il y a la CGT, donc voilà. Il y a des syndicats et par exemple la dernière fois nous comme nous avons fait une manifestation le 17 octobre donc il y avait aussi la marche pour les chômeurs donc c'est aussi pour les travail donc nous avons manifesté ensemble et ils ont mis pourtant c'était leur trajet et tout mais ils ont mis les sans-papiers à tête parce qu'ils disent que voilà là parce qu'il y avait des sans-papiers qui travaillent avec eux ils sont pas encore régularisés et tout donc ils ont dit bon qu'on fait la convergence parce que c'est le même but c'est avoir la régularisation après avoir les papiers.
Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause musicale et nous allons revenir tout de suite avec Marwa qui va poser quelques questions sur l'engagement associatif. À tout de suite sur Radio Pirate. Radio Pirate, bienvenue aux pirates qui nous écoutent. La piraterie est très très heureuse de vous recevoir. Ce soir, nous parlons de la question des personnes sans papier et du travail. C'était extrêmement important pour nous de porter cette voix sur Radio Pirate. Nous voulons tout de suite encore donner notre solidarité aux camarades qui sont place de la République, qui ont mené une action sur la question du logement et notamment des réfugiés en ce moment. Donc, on voulait leur adresser toute notre sympathie et notre soutien et dire que notre regard est tourné vers eux et elles ce soir, et notamment lié à la répression. Marwa, tu voulais poser quelques questions à Nordi sur la question de l'engagement auprès des personnes exilées.
Merci Pauline. Nordi, tu t'es présentée un petit peu au début en parlant du cadre de ton association. Est-ce que tu pourrais développer autour du cadre de ton travail avec les personnes sans papier, de ton point de vue de bénévole associative ?
Oui, alors avec les personnes sans papier, qu'est-ce qu'on fait essentiellement ? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, les principales demandes des personnes sans papier, ça va être l'hébergement d'abord. C'est généralement notre première rencontre, puisqu'en gros, il y a deux grandes catégories de personnes sans papier en France. Il y a les personnes qui ont été déboutées de tout, c'est-à-dire qui ont fait une demande d'asile, rejetés, qui ont fait un recours, rejetés, etc., puis qui sont arrivés au bout de tous les recours et qui n'ont plus eu aucun droit ensuite, qui sont devenus sans papier, où il y a les personnes qui arrivent avec un visa et puis qui, avec un visa court séjour, puis qui restent quand même et qui donc sont sans papier. Nous, généralement, viennent nous voir quand ils sont déboutés, donc soit pour faire des recours juridiques de la dernière chance un petit peu, soit pour parce qu'elles vont être sorties des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile dans lesquels elles étaient, que du coup elles se retrouvent à la rue. Donc ça, c'est les premières choses. Ensuite il y a la question de l'argent, puisque forcément si l'allocation de demandeur d'asile va s'arrêter aussi, donc ça va être compliqué. Il y a aussi toute la question autour des enfants et de la scolarité. Il y a évidemment les recours juridiques pour ce qui est des OQTF, des obligations de quitter le territoire, que les personnes sans papier vont recevoir. Et puis, ensuite, il y a l'accompagnement sur long terme. Et puis, il y a aussi les demandes de régularisation quand les personnes sont là depuis très longtemps, plusieurs années. Donc, voilà, auprès de la préfecture.
Et c'est quoi les cas de figure les plus courants que vous rencontrez ? Est-ce qu'il y a des cas particuliers qui se dégagent, qui sont un petit peu les plus courants, sur lesquels vous allez agir le plus souvent ?
Il y a les cas sur lesquels on est impuissant, c'est le logement, l'hébergement. Donc ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent et c'est les cas où on ne peut rien faire, quoi. Les cas où on peut agir le plus souvent, c'est les recours pour les OQTF, les demandes de régularisation, où très souvent, c'est un peu compliqué de dire aux gens « il ne faut pas demander maintenant, on va vous dire non
». Donc, il y a tout un rapport de développer ?
Oui, alors c'est pas tellement en contexte politique, c'est vraiment une question, enfin ça peut l'être aussi, mais là en l'occurrence c'est vraiment une question de droit, de préfecture, de durée de résidence en France, et puis pour le coup ça peut être une question politique aussi quand il y a un nouveau préfet ou une nouvelle préfète qui est nommée et que du coup ça change complètement la pratique de la préfecture où on est. À ce moment-là, il vaut mieux aller demander dans la préfecture à côté, quoi.
C'est sûr, oui. Quelle a été en fait votre expérience avec aussi dans les cas de figure des campements de personnes réfugiées, notamment ? Est-ce que il y a des vous avez eu des expériences particulières dans ces contextes très précis ?
Non, parce que Valence, on n'y a que 100 000 habitants avec l'agglomération, donc on n'a pas de campement, vraiment dire, de personnes exilées, encore moins de réfugiés, parce que par définition, les réfugiés, eux, ils ont obtenu leur statut, donc généralement, ils ont des maisons, pour la plupart, quand même. Mais on n'a pas de campement. On a des micro-bidonvilles de personnes sans papier à la périphérie de la ville, où on essaye de faire loger, régulariser, mais voilà, il n'y a pas de violence policière à Valence, sur les personnes sans papier.
D'accord, donc c'est pas un constat, c'est un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure autour du fait que la situation était un peu plus facile, entre guillemets, dans les plus petites villes notamment, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Elle est plus facile sur cette question-là, elle n'est pas plus facile sur la question du logement par exemple, où ils sont tous à la rue.
Tout à fait. Et concernant, tu évoquais tout à l'heure aussi le cas des subventions, est-ce que tu pourrais développer un peu autour des relations que ton asso développe avec les cadres institutionnels, c'est-à-dire à la fois avec des structures comme la CIMAD, le Défenseur des droits, et avec d'autres institutions un peu plus officielles?
Alors, nos relations sont très cordiales avec les autres associations, voire chaleureuses avec certaines, que ce soit la CIMAD ou que ce soit l'ASTI, par exemple, ou d'autres associations locales de soutien aux personnes étrangères. Parfois, on se frite sévèrement parce qu'on n'est pas d'accord sur des stratégies militantes ou autres. Elles sont beaucoup moins cordiales avec des associations qui sont délégataires de services publics. Là, ça a forcément un peu plus de mal à passer. Et puis, avec les institutions, ça dépend desquelles. Il y a des institutions avec lesquelles on travaille. C'est le cas, par exemple, du département de la Drôme avec lequel on travaille pour héberger des jeunes majeurs sous contrat jeunes majeurs. Et puis, quand on est d'accord avec le département, ben, voilà, c'est bien, on héberge les jeunes majeurs, donc c'est parfait. Et puis, quand on n'est pas d'accord, et ben, on fait des recours, on les défonce. Ou à partir du moment où on a cette position-là, on estime qu'on est droit dans nos bottes. Alors, ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas de subvention du département. C'est parce que ben, quand on n'est pas d'accord, on y va, quoi. Donc, on bosse avec, mais au coup par coup, quoi.
D'accord.
Voilà. Après, on n'a pas de convention non plus avec la préfecture. Hein,
c'est sûr. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Nordi. Amel, à la lumière de cette intervention, je me retourne vers toi un petit peu pour savoir, tu as évoqué un petit peu ton expérience militante, mais est-ce que tu peux évoquer aussi un petit peu ton expérience avec les associations, notamment les bénévoles autour de la question des sans-papiers et des exilés? Est-ce que tu as une expérience particulière que tu souhaiterais partager à ce sujet?
Oui, bien sûr. Au début, en arrivant ici en France, donc tu arrives en arrivant dans un pays étranger, donc on sait pas quoi les lois, on sait pas le mode de vie et tout, donc on est obligé de faire des contacts avec des associations et tout. Parmi les premières associations, il y a la Croix-Rouge, là il y a la Emmaüs et tout, pour au moins faire une adresse, pour recevoir des courriers, des fois pour avoir un accompagnement social ou quelque chose comme ça. Donc, il y a aussi d'autres associations qui sont des actions sociales, qui est préparation et tout. Donc, au début, j'étais comme bénéficiaire, mais après, il y a des fois où dans des associations, j'étais aussi bénévole, donc je bénéficiais en même temps bénévole, donc pour des préparations de repas.
Merci beaucoup. C'est moi qui fais la dernière partie. Donc, je rappelle qu'on est encore sur Radio Pirate. Je voulais encore remercier Amel et Nordi de passer la soirée avec nous sur la question très importante pour nous, qui est la question des sans-papiers et du travail. Et on voulait finir en fait cette émission sur la question de l'engagement en fait. Donc Amel, toi tu es une des militantes et porte-parole de la Marche des Solidarités. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la Marche des Solidarités d'abord et comment tu milites dans cette organisation?
D'accord. En fait, la Marche des Solidarités, c'est une organisation, elle est créée en 2017. Donc, c'est une convergence de différentes luttes. Il y a la lutte des sans-papiers, il y a la lutte contre le racisme et la lutte contre les violences policières. Donc, la Marche des Solidarités, ça existe depuis 2017. Comment j'ai engagé avec la Marche des Solidarités? Donc, en fait, nous savons très très bien que les sans-papiers, surtout pendant le confinement, donc c'est vrai, tout le monde, ils ont galéré et tout, mais beaucoup plus les sans-papiers, vu qu'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de chômage, il y avait beaucoup beaucoup de difficultés. Et en plus, les sans-papiers, ils étaient en première ligne en faisant le ménage, nettoyage, faisant la livraison et tout, parce que les autres, il y a des gens qu'ils ont préféré de rester chez eux pour protéger de leur santé aussi, mais aussi ils ont au moins un truc, par exemple ils ont le chômage et tout, mais par contre un sans-papier, il n'a rien pour créer et tout. Et voilà, pendant cette crise sanitaire, je crois que c'est la je sais pas, je crois, mais c'est, évidemment, c'est la crise sanitaire, c'est la goutte qui a débordé le verre pour les sans-papiers. Donc, on avait des discussions dans d'autres pays d'Europe, par exemple l'Espagne, Portugal et tout, concernant la régularisation des sans-papiers pendant cette crise sanitaire. Donc, ici en France, il y avait pas un truc pour les sans-papiers. Donc, les sans-papiers, ils ont décidé de sortir dans la rue. Donc, moi, en tant qu'une personne sans-papiers, donc, j'ai eu des appels dans les réseaux sociaux que voilà, les sans-papiers, ils organisent pour sortir pendant une manifestation. Donc, j'ai participé à la première manifestation du 30 mai et la deuxième manifestation le 20 juin. Et après, moi et d'autres personnes et tout, et de mes collègues, Leïla et Mansa, je les salue. Donc, on a dit que pourquoi pas, nous, on essaye de faire un truc. Donc, nous avons créé un collectif, il est nouveau, il s'appelle le collectif des immigrants en France. Donc, c'est un collectif qui est récent. Et du coup, avec la création de ce collectif, on est investi avec la marche de solidarité où il y a tous les collectifs des sans-papiers, toutes les associations et syndicats. Donc voilà mon engagement pour la marche de solidarité.
Merci beaucoup. Aussi, si je me trompe pas, Amel, tu ne vis pas à Paris. Tu vis à Marseille, je crois.
Non, je suis de Paris.
T'es de Paris? Comment ça s'organise un peu justement les réseaux de personnes sans papiers militants? Est-ce que vous avez des réunions, des assemblées générales? Comment ça s'organise?
Avec la marche de solidarité, il y a le syndicat solidaire qui nous offre un local. Donc avant le confinement et par exemple après le 30 mai, en faisant des réunions et tout, donc chaque lundi, nous faisons des réunions, nous, les collectifs des sans-papiers, avec des soutiens pour réfléchir quoi faire et tout. Donc, nous avons fait avec les réunions et toutes les organisations et on a organisé la première manifestation. Et la première manifestation, c'était le 30 mai, malgré il n'y avait pas le confinement total, mais tellement les sans-papiers ont galéré pendant cette crise et tout. Donc, ils ont décidé de sortir dans la rue où il y avait 10 000 personnes. Après cette première manifestation, on a vu qu'il n'y a pas une réponse auprès du gouvernement. Donc, on a continué on a aussi organisé la deuxième manifestation. C'était le 20 juin où il y avait beaucoup de monde. C'était après le déconfinement. Donc, il y avait 55 000 personnes, donc des sans-papiers et leur soutien. Et aussi, il n'y avait pas une réponse. Et après, nous avons décidé parce que les manifestations, par exemple, nous, les Parisiens, on organise les manifestations à Paris. Et on a des contacts avec des collègues et tout dans les autres villes. Il y a des manifestations, par exemple, à Marseille, à Grenoble, à Lyon et tout. Après, dans la marche de solidarité, nous avons décidé de faire un truc national. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, nous avons fait une marche nationale. Donc, pendant deux mois d'été, donc toutes les associations, toutes les collectifs des sans-papiers, ils ont réuni, organisé pour faire cette marche nationale. Donc, cette marche nationale allait commencer le 19 septembre de Marseille. Donc, les gens, les marcheurs, ils vont venir à pied à Paris, de Marseille, de Grenoble, de Lyon, différentes villes. Donc, ils vont venir à pied jusqu'en Paris pour faire les manifestations du 17 octobre. Donc, on a réussi de réunir tout le monde après. Ça veut dire avant l'acte 1 et l'acte 2, c'était des manifestations, comme j'ai dit, chacun dans son coin. Mais là, pour le 17 octobre, il y avait les Marseillais, les Lyonnais, les gens de Rennes, les gens de Strasbourg et tout. Et nous avons fait la grande manifestation le 17 octobre, où il y avait beaucoup de monde et il y avait aussi il y avait aussi avec nous la marche des chômeurs, parce que aussi les chômeurs, ils ont organisé une marche. Donc voilà, c'était la convergence des deux luttes. Et jusqu'à maintenant, il y a rien près du gouvernement. Donc là, on va essayer de faire l'acte 4. On va profiter, comme il y a le 18 décembre, il y a la journée internationale de migration. Donc, le 18 octobre, les sans-papiers et leur soutien, ils vont sortir encore dans la rue pour demander la régularisation des sans-papiers.
Merci beaucoup, Amel. Je vais poser une question à Nordi et je reviendrai vers toi après. Merci beaucoup d'être aussi précise et c'est hyper intéressant. Nordi, je voulais te poser une question pour toutes les personnes qui voudraient aider, être des alliés dans cette lutte pour les personnes sans papier. Toi qui es bénévole depuis des années maintenant, est-ce que tu aurais un processus ou se rapprocher de certaines associations, etc. Comment les personnes pourraient s'engager dans cette lutte en tant qu'alliés selon toi?
Ce serait de se rapprocher d'un collectif ou d'une association existante en disant clairement déjà quelles sont vos disponibilités. Voilà, moi je suis disponible comme ça, en essayant de s'y tenir. C'est-à-dire, si vous dites que vous êtes disponible, je dis n'importe quoi, le mardi après-midi, chaque semaine ou un mercredi par mois, peu importe, essayez de s'y tenir. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Je ne sais pas, ça peut être, moi je veux faire de l'aide administrative, moi je peux donner des cours de français, moi je peux tenir un vestiaire, moi je ne sais pas ce que je peux faire, mais dites-moi de quoi vous avez besoin, enfin bon, peu importe, moi je fais, je fais du graphisme, moi je fais je ne sais pas quoi, bon, etc. Moi je peux faire du ménage dans votre local, peu importe. Donnez vos coordonnées. Claire, j'habite à tel endroit. Essayez de mâcher le boulot. Pas juste bonjour, j'aimerais bien vous aider. Fin du mail. on est là en train de crever avec, on fait 16 heures par jour. Et puis, ton mail, on y répondra dans 4 semaines quand on pensera tiens, il y avait quelqu'un qui nous avait dit. Sinon, si vous faites un truc limpide comme ça, c'est bon, quoi. Tout de suite, on va vous dire ah, ok, tiens, on va te mettre sur tel truc, viens nous voir. Voilà, quoi. Faites ça. Alors, venez, parce qu'en fait, là, comme ça, j'ai l'air un peu fatiguée, parce que je le suis peut-être. Mais sinon, on passe des moments super sympas aussi. Il n'y a pas que des moments tout pourris et prise de tête. On se marre. On passe des moments beaux avec des gens merveilleux. Comme à n'importe quelle lutte, les luttes, ça fait chaud au cœur aussi, quoi. Mais plus on sera nombreux, plus on sera fatigué et plus les luttes, elles paieront. Donc, ce serait sympa d'être plus nombreux.
Et Nordi, j'ai une dernière question pour toi, là. Donc, nous, tu connais Radio Pirate et je suis très contente de te recevoir sur cette radio. Nous, on avait un peu cette idée aussi que le confinement, ça tire un peu sur la gueule de beaucoup de gens, et en particulier, malheureusement, et comme le disait Amel, beaucoup mieux que moi, sur les personnes sans papier et réfugiés en particulier. Comment toi, en ce moment, comment ça se passe, en fait, dans ton asso? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que les personnes peuvent apporter? Je sais qu'il y a aussi, par exemple, sur Paris et à Bordeaux, moi, je suis à Bordeaux, il y a beaucoup de camps de réfugiés qui se font expulser en plein milieu du confinement. Donc, est-ce que tu aurais un peu des conseils à donner où donner son énergie tout de suite pour les personnes qui ont envie de participer et qui écouteront ou ce soir ou demain en podcast et qui ont envie un peu de donner du temps, de l'argent, des moyens et choses comme ça? Est-ce que tu aurais un peu des conseils?
Comment ça se passe dans l'asso? Pour la première partie de la question, ça se passe pas super bien, quoi. On est sur le pont, puisqu'on est sur Radio Pirate. On est sur le pont depuis le début du premier confinement. Et puis, à un moment, on s'était même retrouvés. On n'y était plus que trois. On était plus que trois debout, tous les autres avaient chopé le Covid, donc on n'était plus. C'était n'importe quoi, cette histoire. On était là. Et à faire tous les jours, le samedi, le dimanche, on était à moitié. Et on n'a pas lâché depuis, et il n'y a toujours rien, et plus ça va, plus les assos se désagrègent parce que plus personne n'a de pognon, les restos du cœur ferment de temps en temps parce qu'il n'y a plus rien à bouffer. Les assos caritatives, elles sont quand même remplies de personnes âgées. Il faut connaître ce qu'il y a, quoi. Et les assos, les personnes âgées, elles fatiguent encore plus vite. S'il y a des jeunes qui viennent, ça ferait vraiment du bien, quoi. Même si c'est pour donner deux heures, même si c'est pour donner quatre heures, même si c'est pour donner, si les gens venaient donner un peu de temps, de temps en temps, c'est pas grave, même si c'est un jour par mois, mais si vous êtes 10 à donner un jour par mois, putain, mais ça nous fait 10 jours par mois, quoi. Enfin, vous vous rendez pas compte de ce que ça nous fait en plus, quoi. Donc, contactez les gens autour de chez vous, donnez un peu de temps, donnez du pognon, si vous en avez pas, donnez un peu de temps, donnez, je sais pas, mais même, putain, écrivez-nous des cartes postales, quoi. On les met dans le bureau, dans l'entrée. Ça nous fait plaisir quand on passe le matin de voir qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Enfin, je sais pas quoi, faites un truc.
Désolée, Nordi, j'ai l'impression de. Mais merci beaucoup pour ça et on est très très contente de pouvoir te recevoir. Amel, la dernière question, elle sera pour toi et on voulait d'abord faire un petit update de ce qui se passe Place de la République, qui est pas très cool, hein, parce que. Même si le sit-in tiendrait encore, selon Marlène, notre reporter sur place qui suit sur Twitter ce qui se passe pour nous, malheureusement, la BAC arrache beaucoup de tentes et beaucoup de militants sur place sont en prise avec la police. Et donc, on voulait encore, toute la piraterie voulait envoyer toutes ses pensées et ses soutiens avec tous les militants Place de la République ce soir, aujourd'hui, demain, les autres jours. Amel, on a discuté ensemble du fait que vous aviez écrit un texte pour le 25 novembre, qui est la journée internationale contre les violences faites aux femmes, et tu voulais qu'on en parle un peu. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer quelle action mène la marche des solidarités par rapport au 25 novembre et quelles revendications vous vouliez apporter sur cette date?
Oui, bien sûr. Donc là, comme le 25, c'est une journée contre les violences contre toutes les femmes et tout. Donc là, nous les femmes sans papiers, bon, toute la France, pas forcément que Paris, bon, parce que là, on a des contacts avec toutes les villes, parce que vu qu'on a fait la marche nationale et tout, donc là, on a tous les contacts. Donc ça, tout ce qui se passe à Paris passe en parallèle, généralement dans les autres villes. Là, pour le 25 novembre, donc on sait très très bien si les femmes sont dans cette situation régulière, souffrent de violences, soit administratives, soit sexuelles et tout. Donc les femmes sans papier souffrent doublement de ces femmes, parce que le fait que tu es déjà sans papier, une femme sans papier, donc c'est déjà ne pas une femme qui a pas une papier, ça veut dire elle n'a pas un droit, donc déjà elle est violée premièrement par la loi. Parce qu'elle n'a aucun droit, elle n'a rien. Donc là, sur la marche de solidarité, là, comme il y a le rassemblement le 25, nous, les femmes sans papier, on a un texte. On parle de violences faites contre les femmes en général et en précisant des femmes sans papier. Donc, notre revendication, c'est la régularisation des... c'est arrêt. Premièrement, c'est arrêt de violence pour toutes les femmes. Deuxièmement, la revendication, c'est la régularisation pas forcément que les femmes, c'est la régularisation de toutes les sans-papiers. Donc là, pour le 25, nous serons là pour le rassemblement le 25. Et voilà, on va parler autant que des femmes sans-papiers.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu voudrais faire passer ce soir à nos auditeurs et nos auditrices?
Oui, en tant que une femme, je veux dire que voilà, la femme, c'est pas que le 8 mars dire qu'une journée nationale pour les femmes. La femme, elle est tout le temps normalement, elle est présente. Elle est donc déjà la preuve. Nous sommes des militantes, des femmes. On milite, on fait comme ils font les hommes, donc on demande l'égalité et l'arrêt de toute violence contre toutes les femmes. Et voilà, et on demande de toutes les femmes de nous soutenir, nous les femmes sans papier.
Ben merci beaucoup. En tout cas, Radio Pirate, on pense fort à vous, on vous soutient à 100%. On relaiera votre texte et on sera tous et toutes là. Mercredi dans tous les rassemblements de France. On voulait remercier Nordi d'être là ce soir avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps.
Avec plaisir.
Merci beaucoup à Amel et merci beaucoup à toutes les toutes les pirates qui ont participé ce soir parce que nous faisons une soirée exclusivement de meufs et on est super fiers de ça. Draéline, est-ce que tu es toujours là ?
Oui. Oui, oui.
Ben, merci beaucoup, c'était cool.
Merci à tout le monde en tout cas. Merci beaucoup encore à Amel d'être venue et d'avoir participé. Merci à Nordi aussi, comme tu viens de le dire, mais je pense que c'est important que j'exprime ma gratitude parce que je le pense vraiment. Donc c'était vraiment une super émission avec toutes vous les pirates.
Et encore merci à Marwa aussi qui est là. Est-ce que tu as un dernier mot pour la piraterie ce soir ?
Bien, merci beaucoup pour cette opportunité. C'était une émission géniale, des invités géniales. Et pour la piraterie, qu'elle perdure jusqu'à la fin des temps, en tout cas, on sera toujours là pour la porter. Et courage encore une fois aux militants, militantes et aux travailleurs et travailleuses qui sont à Place de la République ce soir. On pense fort à eux.
Et on voulait aussi remercier la technique, dont Mal à la technique que vous n'entendez pas, et Marlène aussi qui est dans le chat. C'était Radio Pirate. Merci beaucoup d'être encore avec nous, plus nombreux et nombreuses tous les soirs. On lâchera pas l'affaire jusqu'à que Macron démissionne, en tout cas officiellement. Et très bonne soirée et à demain 21h, on viendra pirater vos ondes. Très bonne soirée.
I have therefore chosen this time and place to discuss a topic on which ignorance too often abounds and the truth too rarely perceived. And that is the most important topic on earth. Peace, 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 peace. The pursuit of peace is not as dramatic as the pursuit of war, and frequently the words of the pursuers fall on deaf ears, but we have no more urgent task. Differences, but let us also direct attention to our common interests and the means by which those differences can be resolved. And that is the most important topic on earth. Peace, peace, peace.